Studio Tamani, voici les informations en français.
Vous avez raison de choisir les fréquences des radios partenaires de Studio Tamani pour vous informer. Il est 8h à Talataï dans le cercle d'Ansongo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition dont voici les titres. Un séminaire sur la coopération internationale au Sahel s'est ouvert ce mardi à Bamako. Les défis, enjeux et perspectives de cette collaboration sont au centre des échanges. L'opération de déguerpissement de sept marchés à bétail à Bamako continue, mais les responsables de ceux de Sanfil, Faladié et Niamana ont entamé des tractations pour trouver un terrain d'entente avec les autorités. Le dossier de cette semaine s'intéresse à la vidéosurveillance installée afin d'identifier en cas de vol le ou les auteurs. La publication de l'image de ces personnes, de ces présumés auteurs peut avoir des conséquences. Voilà pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes avec Imran Akilomaïga à la mise en onde Gagny Kanté. Coopération internationale au bénéfice des États du Sahel, défis, enjeux et perspectives. C'est le thème d'un séminaire international qui s'est ouvert hier à Bamako. La rencontre de trois jours est initiée par l'École de maintien de la paix à Lioune Blondène Bay en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. L'objectif est de proposer une meilleure compréhension des défis, des enjeux et des perspectives d'une coopération internationale plus favorable aux États du Sahel. Les participants sont venus notamment du Burkina Faso et du Niger. Moussa Malé Sissoko était sur place.
Alors que la sous-région est devenue un enjeu, l'Alliance des États du Sahel veut réfléchir sur la coopération à avoir avec le reste du monde. C'est dans ce cadre qu'un séminaire s'est ouvert ce mardi à l'École maintien de la paix à Bamako sur le thème « Coopération internationale au bénéfice des États du Sahel, défis, enjeux et perspectives ». Le ministre de l'administration territoriale, le général de division, Abdoulaye Maïga, a insisté sur la nécessité de repenser la coopération internationale.
Il est essentiel de repenser en profondeur la coopération internationale au Sahel pour la rendre pertinente face aux réalités contemporaines. Cette rencontre est une occasion précieuse de partager les idées, d'échanger des expériences et de construire ensemble un avenir promoteur pour les États et les populations du Sahel.
Dans la même veine, son homologue des affaires étrangères et de coopération internationale, Abdoulaye Diop, a parlé d'une reconfiguration de la coopération internationale, une coopération longtemps basée sur l'aide au développement.
Cette reconfiguration commence sur la base de nos trois principes que nous avons mis en avant. Jusque-là, la coopération avec les pays du Sahel ou la coopération avec le Mali a été basée sur ce qu'on appelle l'aide au développement. Mais on ne peut pas se développer sur la base de l'aide. Il faut qu'on sorte de ce schéma pour entrer dans des schémas de partenariat gagnant-gagnant.
Rappelons que 5 panels sont au programme de ce séminaire. Ils seront animés par des experts des questions sécuritaires, développement et relations internationales.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X anciennement Twitter. La fermeture de sept marchés à bétail à Bamako annoncée par les autorités le 19 septembre 2024 se poursuit. La semaine dernière, les marchés de Gélibougou et de Sotiba ont été déguerpis. Au même moment, ceux de Sanfil, Faladié et Niamana sont toujours intacts. Cependant, selon les responsables de ce lieu, les négociations sont en cours avec les autorités du gouvernement pour trouver une solution à cette situation. Lala Aïcha Ouellet, Infa.
Au marché à bétail de Sanfil, les vendeurs estiment que les nouveaux marchés proposés par les autorités ne sont pas prêts pour être habités. Selon eux, ces endroits sont très éloignés et exposés à l'insécurité, y compris les manques d'eau. Ils ajoutent qu'après la fin du premier délai, les syndicats les invitent à toujours rester sur place. Certains parmi eux affirment que ce déguerpissement aura des répercussions sur plusieurs activités liées à la vente des bétails. Pendant ce temps, les parcs à bétail de Faladié et celui de Niamana sont toujours sur place. Les responsables nous ont confié que des concertations sont en cours entre les acteurs de la filière bétail et les autorités pour trouver une issue définitive à ces problèmes. Il faut rappeler que cette décision a été prise pour des raisons d'ordre public selon un communiqué du gouvernorat de Bamako.
Des Maliens seraient expulsés de l'Algérie vers Tinzawatène du côté du Mali. Selon les responsables de l'association malienne des expulsés, le refoulement des subsahariens de l'Algérie vers Tinzawatène est une réalité. Ils indiquent que la situation des migrants est alarmante dans cette partie du Sahel. Ousmane Diarra, président de l'association malienne des expulsés, joint par Draman Maïga.
Ces personnes expulsées vers Tizanwaten, pas seulement les Maliens, mais des nationalités ouest-africaines. Il y a des Sénégalais, des Gambiens, des Maliens, des Burkinabés, des Sierra Leonais. Ils sont dans cette no man's land entre Tizanwaten, Alger, Tizanwaten, Mali, dans des conditions extrêmement difficiles. Parce que l'endroit est en guerre, ils subissent de toutes sortes de dangers. Alors ceux qui sont des Maliens, dès à leur arrivée, ils vont essayer de regagner la maison. Ou certains vont aller taper la porte des ONG ou de l'OIM. Parce qu'ils ne sont pas dans la base de données de l'OIM depuis leur refoulement. Souvent, il y a des ONG, des personnes de bonne volonté et même souvent le gouvernement du Mali leur prend en charge.
Le lancement du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion a eu lieu le lundi 21 octobre 2024 à Meneka. Selon le comité de pilotage, plus d'un million de Français CFA, 50 sacs de riz et 50 bidons d'huile, des bâches, des kits de lavage de mains, des moustiquaires sont entre autres contributions reçues à la date d'aujourd'hui de certains responsables. Les activités proprement dites démarreront le prochain jour en attendant d'autres contributions.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Face à la recrudescence de vols, des commerçants ou particuliers affichent leurs voleurs interceptés à partir de caméras de surveillance. Le concept est simple, ils publient ces images de présumés voleurs sur différentes plateformes, TikTok ou Facebook. Ces séquences largement partagées exposent les présumés auteurs qui usent de la présomption d'innocence. Certains vont jusqu'à proposer en échange leur capture une somme alléchante. Attention, cette pratique est-elle autorisée par la loi? Plus de détails avec Amadou Sadio Camara.
Installer une caméra de surveillance dans sa boutique est désormais une nécessité selon beaucoup de commerçants. Pour eux, c'est l'un des moyens de sécurité efficaces de traquer les potentiels voleurs.
Les caméras de surveillance sont vraiment importantes. Les clients peuvent voler des produits. Si on voit cela, on peut faire des avis et poster leurs images sur les réseaux sociaux. Tant qu'on est commerçant, on a affaire à plusieurs types de personnes. Certains peuvent voler et il vous sera plus facile de les retrouver à travers la caméra de surveillance. En plus, on peut fournir des articles à certaines personnes et oublier leur visage par la suite. Si on se sert des caméras, il est facile de les détecter.
Nos interlocuteurs semblent trouver la solution pour traquer les malfrats. Et pourtant, la juridiction concernant l'usage des caméras de surveillance interdit la diffusion d'images de voleurs. Les détenteurs doivent plutôt coopérer avec les autorités compétentes, notamment la police. Ismaël Traoré, directeur de la communication et des relations publiques de l'Agence pour la protection des données à caractère personnel.
En cas de flagrant délit de vol, automatiquement on doit saisir la police. Si on saisit la police, c'est la police qui choisit le canal sur lequel ils veulent étendre l'enquête. Ce sont les autorités légalement habilitées à être en possession de ces images-là et à les utiliser. Le propriétaire même du magasin et de la boutique ne doit pas se permettre de publier ces images-là sur les réseaux sociaux.
Et ceux qui outrepassent ces mesures s'exposent à des sanctions, prévient Ibrahim Ben Mamata Touré, juriste.
La publication de ces images sur les réseaux sociaux sans l'autorisation en amont conduit les auteurs à commettre des infractions parce qu'ils exposent la vie de ces présumés voleurs. Or, ces individus-là, sans condamnation, jouissent de la préemption d'innocence.
Il faut également noter que l'installation d'une caméra de surveillance au Mali nécessite le respect de plusieurs autres principes régis par l'Agence pour la protection des données à caractère personnel, APDP. Ismaïla Traoré, directeur de la communication et des relations publiques de la dite agence.
Quand on met en place un système de vidéosurveillance, il y a des principes auxquels on doit obligatoirement se plier, à savoir les caméras ne sont pas installées n'importe où, les caméras ne doivent pas être braquées sur les agents en permanence. Quand on met en place un système de vidéosurveillance, on doit se plier aux exigences de la PDP.
En conclusion, le non-respect du droit à l'image peut conduire à la prison. La prudence est donc de rigueur.
Ainsi se referme cette édition qui vous a été présentée par Imran Akilomaïga. Merci de l'avoir suivi. Vous avez la possibilité de réécouter ce journal en appelant au numéro suivant 37321 ou nos productions sur WhatsApp à travers ce numéro 75 99 76 19. Merci de l'avoir suivi. Le projet d'Outoloma aux femmes piliers de la famille dans son ambition d'accompagner les femmes à être autonomes a organisé le 16 octobre dernier à Sibi une conférence de plaidoyer sur la loi d'orientation agricole. En collaboration avec la FENAFER, Fédération nationale des associations des femmes rurales, cette rencontre a permis aux agricultrices de mieux comprendre particulièrement l'article 13 qui prévoit l'installation de jeunes et de femmes comme exploitants agricoles. L'initiative ambitionne aussi d'amener les responsables les décideurs à prendre des dispositions pour une application efficace de cette loi. Le projet d'Outoloma est financé à plus de 7 milliards de francs CFA par l'Affaire mondiale à Canada et mis en œuvre par le consortium Alliance agricole internationale. Arkia Touré, des retours de Sibi, revient sur cette rencontre.
Nous sommes à Sibi, à plus de 49 km de Bamako, la capitale. Sur place, pas moins de 400 femmes agricultrices venues de Kaï jusqu'à Taoudeni, réunies en faveur de la journée de la femme rurale. Cette conférence de plaidoyer plante le décor des festivités. Elle a porté en partie sur la non-application effective du quota des 15% des terres aménagées à octroyer aux femmes et aux jeunes. Une incompréhension pour la Fédération nationale des associations des femmes rurales, initiatrice de cette rencontre. Nyagate Gundo Kamisugo est la présidente.
Mais la décision, ça n'a jamais été exécutée. Les gens disent que nous, on a accès aux crédits. C'est pas vrai. On ne peut pas payer les taux d'intérêt est trop élevé et on demande chaque fois aussi de donner un garantie. Et pas mon rural, nous on n'a rien.
La conférence a été animée par Massa Kone, secrétaire général de l'Union, porte-parole de la Convergence globale de lutte pour la terre. Une occasion pour les agricultrices de comprendre le contenu de la loi d'orientation agricole.
Vraiment, les femmes, il y a le bas de son.
Pour lui, le poids de la coutume est un des facteurs qui empêche les femmes à accéder à ce droit foncier.
La difficulté aujourd'hui, ça, c'est le changement de mentalité. Sensibiliser les papas, les autorités locales à comprendre ça, que ce n'est ni porter atteinte à notre religion, ni porter atteinte à nos us et cultures.
Pourquoi l'État peine à appliquer cette loi? Les conférenciers du jour ont une explication. Massa Kone.
Dans les villages, l'État essaie toujours à manager, surtout dans les régimes politiques. Personne ne veut avoir les villages sur ton dos. Donc c'est ce qui fait que l'État n'est pas aussi fort vraiment pour une mesure d'accompagnement forte. Nous sommes dans les phases de la sensibilisation.
Au ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, des dispositions sont prises, indique Dr Douré Kadiatou Sanogo, conseillère technique chargée du développement de l'autonomisation de la femme.
On a des programmes de formation à l'endroit des femmes pour que les femmes puissent connaître d'abord leurs droits, savoir qu'elles doivent vraiment accéder à la terre parce qu'elles sont souvent actrices et nous les soutenons aussi dans tout ce qui est revendication.
Ces travaux est accompagné par des initiatives des partenaires comme le projet d'Outoloma, entendu par la femme pilier de la famille. Ce projet qui est né en mars 2021 intervient dans les régions de Koulikoro, Djoila, San, Sigasso et Ségou. Il vise à renforcer l'autonomisation socio-économique et le bien-être des agricultrices. Dans la région de Koulikoro, les organisations des femmes comptent sur les avantages du projet.
Même en ce début d'hivernage, le projet d'Outoloma a donné 50 vaches aux femmes de Banamba, 20 à Beleko et 4 à la commune de Wakoro. Après cela, ils ont financé aussi plus de 15 coopératives à hauteur de 32 millions de francs CFA. En plus, concernant l'acquisition des terres, nous avons eu des espaces de plus de 100 hectares grâce à eux.
L'un des objectifs de d'Outoloma est de permettre aux femmes de ces zones ciblées de bénéficier de plus de terres cultivables. Cet exercice a eu lieu à Ségou et il a porté fruit. Selon Mme Djao Kadiatoutal, présidente des femmes rurales de la région de Ségou.
Avec ces coopératives de base, elles ont adhéré à l'ASPOFER, l'Association professionnelle des femmes rurales. Et ensemble, nous sommes en train de voir comment les aider, comment plaidoyer les terres qu'elles ont eues pour les champs écoles. Ces terres puissent être leur propriété pour les femmes. Et voilà les papiers, pour qu'on ne le reprenne pas.
La rencontre de Sibi, qui est aussi soutenue par d'Outoloma, a mobilisé les responsables et acteurs du projet.
Bonjour.
Oumoufoune Kone, spécialiste égalité hommes-femmes sur le projet d'Outoloma.
Actuellement, nous travaillons avec 84 coopératives féminines, mixtes, mais majoritairement féminines. 5 unions, trois Asprofer et la Fenafer.
Hier, plutôt connues comme des femmes rurales sans espoir, les bénéficiaires du projet d'Outoloma sont dorénavant des entrepreneuses et des leaders dans leur milieu. La rencontre plaidoyer de Sibi a enregistré la participation des autorités locales, mais aussi des acteurs en faveur de la promotion de la femme. Elle s'est clôturée par la projection d'un sketch de sensibilisation sur l'accès des femmes à la terre, avec comme message de fond, désormais, plus rien ne constitue d'obstacle pour les femmes rurales.